Moi, je suis petit de la famille. Ma femme, elle fait 1m80 et Noah, il fait encore un peu plus. Vous voyez? Un petit peu comment je suis venu au Seigneur. J'ai grandi dans une famille hindouiste. On avait beaucoup de saints, beaucoup de dieux, beaucoup de statues. On a même un dieu qui s'appelle Kali qui a 10 bras. Je ne sais pas à quoi ça sert. Déjà avec 2 bras, j'ai du mal à m'en servir. Et pendant longtemps, j'ai vécu dans cette religion, dans cette approche de Dieu. Et j'ai même voulu un moment devenir prêtre. Alors, vers l'âge de 8 ans, au nom de Jésus, à l'âge de 8 ans, mon père nous abandonne et s'en va. Il quitte l'île Maurice pour venir en France, abandonnant femme et 6 enfants. Ma mère se retrouve avec 6 enfants. Quelque temps, mon père vient le chercher à l'île Maurice. Il a pris les 4 aînés, 2 garçons, 2 filles. Je suis l'aîné de la famille. Et à la maison, mon père travaillait toute la journée, donc j'avais 12 ans. De faire les courses, le ménage, le repassage. Honore ton père et ta mère, ainsi tu verras les jours s'ajouter. Vous avez compris le message en même temps, non? Hein? Et j'ai grandi comme ça, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, ma mère est venue nous rejoindre, et mon père a recommencé à battre ma mère, etc. etc. Je passe les détails, vers 17 ans et demi, je suis en train de finir mes études. Et mes 2 sœurs se sont converties entre 2. C'est une bonne chose, hein? Et mes sœurs m'ont dit, écoute, ce sont les vacances, est-ce que tu viendrais avec nous? Est-ce que tu viens pour les vacances? Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais elles m'ont dit, m'ont rassuré, m'ont dit, tu sais, il y a des belles jeunes filles là-bas, tu peux y aller, et puis ça va aller. Alors, j'avais des cheveux jusque-là. J'avais des jeans encore plus troués que ça, parce que le jean troué, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de notre époque, mon fils. Et on écrivait dessus en cours de maths, et puis on l'arrachait, on le découpait, et puis on sortait comme ça. Et j'arrive dans ce camp de jeunes qui a duré 6 jours. Le lundi soir, première réunion. Moi, je croyais j'allais m'amuser. Et il paraît qu'il y a des gens de Rumingham ici. Non ? Rumingham, je me suis converti à Rumingham, chez Georges Guy. Donc j'arrive dans cette église, le soir, Guy prêche sur l'évangile de Jean, tu dois naître de nouveau. Vous savez ce que c'est, hein? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Tu dois naître de nouveau. Et bien sûr, comme c'était un camp de jeunes, on avait des lits américains. Vous savez, des trucs, des brancards sur lesquels on devait dormir. Et toute la nuit, tu dois naître de nouveau, tu dois naître de nouveau. Alors je dormais déjà mal, mais en plus quelqu'un me parlait. Je cherchais autour de moi, tout le monde ronflait, sauf moi, je ne dormais pas, j'entendais, tu dois naître de nouveau. Alors, la nuit passe parce qu'ils n'ont pas dormi, et je recommence la journée de le mardi avec une nouvelle réunion. Et cette fois-ci, je dis, ils ne vont pas m'avoir une deuxième fois. Je vais rester au fond de la salle. Rue Minguem, c'était la rue du Rivage, l'ancienne église. Au fond de la salle, ils ne vont pas m'embêter. Mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, ils font un couscous. De toute façon, vous avez déjà mangé, vous n'avez pas faim. À part Jaël qui a toujours faim. Mais voilà, c'est enregistré Jaël, hein, ce n'est pas de ma faute. Hein. Donc, on fait un couscous. Je dis, il fait beau, on va se promener. Et là, le pasteur Guy Georges qui dit, on va faire une réunion. La dernière réunion. Je dis, c'est pas possible. Des réunions, des réunions, des réunions. J'étais au fond de la salle. Pendant la prédication, je ne sais pas de quoi on a parlé. Franchement, je ne sais toujours pas. Je sais que j'ai pleuré pendant 2 heures. Moi qui étais au fond de la salle, je me suis retrouvé devant, allongé, le ventre à terre, comme fait souvent Antoine lorsqu'il prie, vous voyez là. Allongé, en train de pleurer pendant 2 heures, 2 heures et demie. Sur le coup, Je commence à parler en langue. Je me lève, je commence à prophétiser. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je venais rencontrer Jésus. Jésus venait transformer ma vie. Et connaissant Guy Georges à l'époque, il m'a dit, on ne te laisse pas partir comme ça. Semaine prochaine, on te baptise. Alors que moi, dans mon église, je mets trop en baptiser quelqu'un. Ici, semaine prochaine, on te baptise. Je me fais baptiser. Je rentre à Dunkerque, j'habitais Dunkerque. Je vais chez le coiffeur et je me fais couper les cheveux. Vous voyez, imaginez les cheveux. C'est ce que là. Je me fais couper les cheveux. Je troque mes vieux jeans à quelques stars. Trois pièces. Cravate, débardeur. Et je sortais comme ça. Et mes copains me disent, qu'est-ce qui se passe? T'as eu un problème? J'ai dit non, j'ai donné mon cœur à Jésus. Bref, je passe les détails. Je me convertis, je retrouve dans une église à Dunkerque, et là je parle à Dieu. Dieu, si tu as changé ma vie, ce n'est pas pour rester assis dans une église. Dans une église, il ne doit pas avoir de chaise. On doit être debout, couché, allongé, à genoux. Il ne doit pas avoir de chaise. Parce que les chaises, ça fatigue les fesses. Ça donne des escarres. Alors, je dis, Seigneur, je ne veux pas rester assis dans une église. Moi, je veux te servir. Mais il se passe quelque chose de pénible entre deux. Mon frère, un autre frère, donc mes deux sœurs, moi-même et un autre frère, on se convertit, tous les quatre. Et dans ce groupe de jeunes qu'il y avait à Rumingen, le plus vieux, c'était moi, 17 ans. Et la plus jeune conversion, c'était une fille qui s'appelait Yvette, ouais, je me rappelle tous ses noms encore, 8 ans, qui prophétisait. 30 baptêmes de Saint-Esprit. 30 personnes converties le même jour. 30 personnes qui parlent en langue. 30 personnes qui prophétisent. C'est formidable, hein? Tout à l'heure, on parlait avec Alexis, on dit, l'église d'aujourd'hui doit être comme ça aujourd'hui. Amen. Quand Dieu touche, Dieu libère et il passe des choses nouvelles. Le feu doit venir. Et tout à l'heure, il avait déjà commencé à avoir le feu, là. Mais ça va arriver, là. Yes. Il y en a des anglophones ici. Mais voilà. Je rentre à la maison, mon père était encore à la maison, avant qu'il ne parte de la maison, me dit, ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tes fesses vont être blanches. Ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu vas devenir blanc. Alors j'ai laissé parler mon père, il a commencé avec ma mère, à un moment ça n'a pas duré, et mon père et moi on s'est battus et il est parti de la maison. Et la première chose que me dira Guy Georges encore, je reviens à lui, si tu veux servir Dieu, il faut apprendre à pardonner. Alors montez, imaginez la colère, pardonner à quelqu'un qui a battu sa mère alors que je n'avais rien fait et je suis allé voir mon père pour lui demander pardon. Je lui ai demandé pardon pour tout le mal qu'il a fait à la famille. Et moi j'étais libéré. Mais encore jusque-là, on peut dire ça va Seigneur. Et je pleurais pendant le chant, oui, je crois en toi. Parce que si vous regardez sur ma tablette, dans ma session 2, je commence par ce chant. J'écris ce chant-là. Ce n'est pas la même version, mais ce n'est pas grave, c'est les mêmes paroles. Oui, je crois en toi, toi le ressuscité qui redonne la vie. On était en hiver, il faisait froid. J'habitais Dunkerque. Mes parents venaient d'acheter, une maison. Une très grande maison, 10 chambres. Oui, c'est pas une blague, tout à l'heure, 10 chambres. Hein. 10 chambres, grand jardin, enfin, il y avait tout. Et il n'y avait pas encore le chauffage central. On était encore à l'époque du dinosaure. Il y avait du charbon à mettre dans le poêle, tout ça. Un samedi soir, alors que je rentrais d'une sais pas d'où, d'une réunion encore, je vais me coucher. Le dimanche matin, donc c'est une grande maison avec plein de chambres. Ma sœur va chercher le pain. En face, dans le magasin, passe dans le couloir, toque à la porte, les garçons, il faut vous réveiller, il y aura bientôt le culte. Ok. D'habitude, on se réveille, on va au culte. On prépare tout ça. Elle revient de la boulangerie, les garçons, comment ça se fait, vous n'êtes pas réveillés? Et là, ma soeur va voir ma mère, dit, écoute, les garçons ne se réveillent plus. Au fait, on venait d'avoir un accident. Monoxyde de carbone. Mon frère de 16 ans est décédé, sur le coup. Et je t'ai mené à Calmette, en urgence, en hélico. Au fait, J'étais mort de samedi à lundi. Je ne vivais plus. Il n'y avait plus de vie en moi. Et imaginez une maman qui perd le jour même deux fils, mon frère et moi. Ma mère était bouddhiste, hindouiste. Elle a dit, Jésus, écoutez cette phrase, si tu existes, si réellement, comme dit mon fils, tu es le Jésus qui sauve, qui pardonne, qui donne la vie, je ne te demandais qu'une chose, ressuscite-moi un fils. Et ce jour-là, alors que je suis parti de Dunkerque jusqu'à Calmette en hélico, j'étais dans l'hyperbare et tout ça, on a essayé de me sauver la vie. Je quittais mon corps terrestre et je suis allé visiter le ciel. Et dans le ciel, j'arrive et je vois mon frère. Oui, quand on est mort, quand on appartient à Dieu, on est là-haut. Je vois mon frère. Je ne pouvais pas savoir parce que j'étais mort. Donc je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé. Je vois mon frère. Je discute avec lui. Il me rassure, il dit, ça va. Je rencontre un homme qui me dit, toi, j'étais appelé pour me servir. Je rencontre Jésus. Je n'ai pas vu son visage. Et je me suis rappelé dans un texte, dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la mer de cristal. Et je suis allé sur cette mer de cristal. Et il y avait des femmes qui étaient en train de puiser de l'eau. Et lorsqu'ils le versaient aux pieds de Jésus, c'était du cristal, des diamants qui sortaient. C'était l'offrande qu'il apportait. Lundi après-midi, je reviens à la vie. Il faut savoir à l'époque, si vous pouvez vous renseigner dans tous les journaux de Dunkerque, vous verrez. Toutes les églises de Dunkerque et d'ailleurs ont prié. Je reviens à la vie. Ma mère vient me voir à l'hôpital, à Calmette. On se parle à travers, vous savez, des micros, parce qu'on ne peut pas rentrer dans une chambre, étant donné que je viens de sortir de monoxyde de carbone, bref. Elle me parle, et là, je dis à maman, je ne pouvais pas savoir. Elle me regarde, elle me sourit pour ne pas me montrer que mon frère est décédé. Et là, je dis à maman, t'en fais pas. Il est là-haut, je l'ai vu. Ma mère me regarde. À l'hôpital, elle se met à genoux. Elle dit, Jésus, je t'accepte. Et elle me met dans une chambre. On a caché mes chaussures pour pas que je me sauve. Enfin bref. Et ma mère était à un étage au-dessus parce que, vous comprenez la situation, elle vient de perdre un fils. Et crise, etc. etc. Et il y a l'enterrement de mon frère. Que je n'ai pas assisté. Je suis allé qu'une fois sur sa tombe parce que je ne veux pas aller sur sa tombe parce que moi, je l'ai vu là-haut. Je suis allé qu'une fois pour le montrer à quelqu'un, mais c'est tout. Et ma mère elle rentre dans sa chambre, elle enlève tous les posters de Shiva, de Vishnu, de Ganesh, tout ce que vous voulez. Elle prend tout, elle brûle tout dehors. Elle dit, mon fils qui est mort est revenu à la vie. Et mon autre fils, il est là-haut. Ma mère se donne au Seigneur et se fait baptiser une semaine plus tard. Le jour de l'enterrement de mon frère, je ne sais pas si vous connaissez, ça existe encore, les petits Nouveaux Testaments Gédéon. On a distribué 3000 Testaments Gédéon, tellement il y avait du monde au cimetière. Sur les 3000 personnes, il y a eu 150 convertis. J'ai dit, la mort de mon frère n'a pas été en vain. Christ, sa mort n'a pas été en vain pour que nous ayons la vie. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que, aujourd'hui, si je suis fort, comme rappelle Alex, si, en parlant du vieux chêne, et c'est juste et c'est vrai, quand Dieu habite en nous, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Pourquoi je voulais parler de mon témoignage? Parce que souvent, on pense à le pape Jean-Paul. Pourquoi je parle de mon témoignage? Parce que c'est important de pouvoir dire aux autres ce que Jésus a fait dans notre vie, de pouvoir témoigner de l'amour ou de la grâce de Dieu. Si j'avais pas, je ne serais pas allé à Rue Maguem dans ce vieux bled perdu, excuse-moi, pourri, où il n'y avait pas de dancing, il n'y avait pas de bowling, il n'y avait pas de café, il n'y avait rien de ce truc-là. Même si je n'ai pas trouvé de fille, ce n'était pas ça. Parce que Dieu avait préparé ma destinée. Parce que Dieu avait préparé pour moi le chemin qu'il avait déjà tracé. Ce matin, je disais que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et que Dieu a préparé d'avance notre lendemain. Et quand ces choses sont passées, je me suis dit, tu es le Dieu de miracles. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce chant sur ma tablette avant-hier. J'ai dit, et puis vous le chantez, voyez, il n'y a pas de... Tu es le Dieu de miracles, tu es celui qui redonne la vie. Quelquefois on croit que les choses sont mortes dans nos vies. Quelquefois on croit que c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais je vous dis, Dieu est le Dieu de miracles. Il y a cette mèche qui brûle encore, qui brûle encore, qui brûle encore, qui brûle encore. Il ne change pas. Il brûle encore. Et ensuite, les années sont passées. Je suis commencé à vieillir. Et il y a des choix à faire dans sa vie. Je faisais partie de l'une des meilleures équipes de volleyball de France. Eh oui, ça se comprend. Mais regardez mon fils, je dis comme ça. On était champion de France. Ça se voit pas, hein. Si. J'étais cinquième finaliste de France en relais 800 mètres. Il y avait tout ça à faire. J'étais jeune. J'étais beau. Voilà. Mais il y avait un choix à faire. Et à Dunkerque, le pasteur m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu peux faire du sport, ça glorifie Dieu. Mais si tu veux me servir, ça glorifie Dieu. Tu as un choix à faire. J'ai écrit au président, pas la République, au président de l'équipe USD, c'est-à-dire l'équipe de Dunkerque, pour donner ma démission en tant que joueur de volleyball. Il dit, Seigneur, il y a un choix à faire. Mon choix, c'était servir. Ça ne veut pas dire que si vous faites du sport, Dieu est contre le sport. Hein. Ça, chacun sa destinée. Mais ma destinée était comme ça. Dieu, si tu veux que j'arrête le sport, montre-moi. Et j'ai dit, rappelez tout à l'heure encore à Chanel Alexis, vous savez comment Dieu m'a montré pour arrêter le sport? C'est des petites clés, ça. Le jour de mon anniversaire, donc c'était converti au mois d'août, vous voyez, on arrive juillet, août, septembre, octobre, mon anniversaire, il y a 15 jours, mon pasteur m'offre une guitare. Oh, une guitare, moi qui n'aime pas jouer la guitare. Il m'offre une guitare, il m'a dit, voilà, j'ai une guitare. J'ai pleuré devant Dieu avec cette guitare, sinon je vais apprendre à jouer la guitare, si tu veux. Si je sais jouer la guitare, j'abandonne mon sport. Ok, Dieu me dit, on fait le deal. On m'envoie un musicien pour m'apprendre à faire quelques accords, à gaucher en plus. Il avait sa guitare à l'envers, il fallait faire quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi, quand je dis que rien n'est perdu, j'ai appris la guitare une demi-heure. Et le dimanche, je jouais de... J'ai appris à jouer la guitare une demi-heure, et le dimanche, c'est-à-dire que c'était jeudi, le dimanche, je jouais déjà à l'église. Dieu est capable de faire des miracles. Et là, quand Dieu m'a répondu, j'ai dit stop, plus de sport pour moi. Plus de relais 800 mètres. 4 fois 800 mètres, plus de volleyball. Ma vie continue avec des hauts et des bas, beaucoup plus de bas que de hauts, n'est-ce pas? Je travaille, voilà, je continue ma vie. Et quelques années, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, je rentre chez nos amis japonais, Toyota. Toyota, vous connaissez Toyota? La plus mauvaise voiture de France. La plus petite voiture de France, je veux dire. Je rentre chez Toyota pour travailler, parce que je travaillais dans une autre boîte avant. En fait, à l'origine, je suis éducateur spécialisé. Hein. Et après, je ne voulais plus travailler dans le travail. Je suis venu être soignant, j'ai quitté l'être soignant, et puis je travaille dans une usine. Je me rappelle, je vais travailler à l'usine, alors que j'étais... Enfin, ça, c'est après Toyota. Ouais, je vais expliquer après. Donc, voilà. Je travaille dans une usine, on me fait une demande, je rentre chez Toyota comme simili-cadre. Vous voyez, ça va. J'avais mon bureau. Bref, pas Toyota, on fabrique les voitures, mais c'est Toyota qui fait rentrer tous les projets japonais en France. Donc, je rentre chez eux, je travaille. OK. Et voilà, un jour, mon patron, M. Taniguchi, qui a déjà mangé à la maison, en plus, il vient manger chez moi, m'embauche, il me dit, nous, Japonais, nous vendons des rêves aux autres. Alors, je lui dis, expliquez-moi. Eh bien, nos rêves, c'est mentir aux autres. Ah ! Donc, ça veut dire que dans mon travail, je dois apprendre à mentir. Et là, je veux voir qui ? Dieu. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, Dieu n'avait pas besoin de me répondre. Dans les 10 commandements, c'est écrit, tu ne mentiras pas. Donc, pas besoin d'appeler Dieu, hein. Même s'il est toujours dispo 24 heures sur 24, ce n'était même pas la peine de l'appeler. Il répond avant même. Je veux voir M. Taniguchi, il faut qu'il te marre. Je dis, voilà, je donne ma démission. Il dit, c'est pas possible, monsieur. Je dis, je donne ma démission, vous me devez encore tant d'argent, et tout c'est ça. Le japonais, vous savez, le bureau, c'est open space, on travaille tous dans le même bureau. 30, 40, 50 fois. Il se met à genoux dans le bureau. Monsieur Kudun, c'est moi. Ne partez pas. Alors, il dit, ne partez pas sans moi. Donc, j'ai dit, si, je m'en vais. Donc, je quitte Toyota, alors que j'étais simili-cadre. Je rentre dans une usine. Je deviens avec un bleu de travail, avec un smicard. Et je rentre dans une autre usine, je deviens pontier, celui qui conduit les ponts. Et Noah rappelle ça, mon père, il a un métier, il est pontier. Bref, vous voyez, quitter tout ça, rentrer. Je rentre dans cette entreprise qui est aujourd'hui Vallourec, que vous connaissez tous, le tube sans soudure, le tube le plus cher au monde. Je rentre dans cette entreprise comme manœuvre, ouvrier. Je me fais embaucher. 2 mois après, je suis responsable. 1 an après, je suis responsable de qualité. Aujourd'hui, c'est responsable d'achat, tiers premier de l'entreprise. Tout ça a commencé un jour parce que je voulais voir ma destinée. Parce qu'un jour, j'ai décidé de laisser Dieu diriger ma vie. Parce qu'un jour, j'ai décidé que ce n'est pas moi qui dois vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Un jour, j'ai décidé que je ne dois pas mentir. Un jour, j'ai décidé que tout ce que j'ai sur la terre ne vaut pas ce que Dieu peut me donner. Et un jour, j'ai décidé que si Dieu ne dirige pas ma vie, c'est le diable qui dirigera ma vie. Un jour, j'ai décidé que si j'accepte Jésus, peu importe la situation dans laquelle je dois passer, par laquelle je passe encore aujourd'hui, Dieu est mon appui, ma forteresse. Dieu est sur le seul où je peux compter. Puisqu'il est le Dieu de ressuscité, il est le Dieu de gloire. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracle. Et ce soir, je veux le proclamer et vous dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible puisqu'il est le Dieu de miracle. Et bien sûr, de mon témoignage, j'ai envie de vous dire, j'ai appris qui je suis. Peu importe la façon dont je suis né. Je vous ai parlé ce matin de mon rejet, de mes parents quand je suis né. Peu importe la façon dont j'étais conçu. Peu importe l'éducation qu'on m'a donnée. Peu importe la couleur de ma peau. Peu importe mon niveau intellectuel, même si je suis un peu plus haut que vous. Hein, mais peu importe mon niveau intellectuel. Peu importe ma taille de mes chaussures, peu importe mon Dieu trouvé, ce que je sais, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Christ. Je suis héritier. Je suis celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a choisi. Et ce matin, cet après-midi, je vais vous dire, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai appris qui j'étais. Et toi, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que réellement tu sais, c'est pas la position que tu, dans laquelle tu te trouves, ni la couleur de ta peau, ni l'ethnie culturelle, ni ce que tu fais, ni tes études, mais tu dois savoir qui tu es, qui tu es réellement, qui tu es réellement, qui t'a appelé, qui t'a préparé, qui conduit ta route, qui chemine avec toi, qui ouvre les barrières, qui prépare ton chemin, qui enlève les cailloux, qui enfin prépare ta destinée. Tu dois savoir. Si tu ne sais pas, c'est parce qu'il y a un problème. Quand j'ai... Et tout à l'heure, j'étais là-bas pendant qu'on rechantait ce chant ressuscité. Je venais me prendre en souvenir tout ce moment d'accident que j'ai eu. Ah oui, j'ai encore un autre accident. Ah oui, il y en a plein, tellement plein. C'est pour ça que mes jeans sont trouvés. Je m'en vais en vacances en Ardèche. C'est bien l'Ardèche, hein? C'est magnifique l'Ardèche, hein? On va papoter un petit peu, là, hein? Il fait bon, hein? C'est pour ça que je prends des couleurs. Je vais en Ardèche et... Alors, j'ai des défauts. Faut pas le dire. Si. Je sais à peine nager. Pourtant, je viens du Nil, hein? Enfin, ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux. Et là, j'arrive à l'Ardèche. Et il y a un barrage. Qu'est-ce que je fais? Je plonge. Il y a 6 mètres en dessous de moi. Dans un barrage, 6 mètres. Je plonge. Dans des barrages. Je plonge. Je m'enfonce. Arrive à ce moment-là un tourbillon. Je pars dans le tourbillon. Et vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont accompagné en vacances, ce sont des chrétiens de Dunkerque un peu partout. Il se passe encore un miracle. Je suis en train de m'enfoncer. J'ai dit, Dieu, une fois, pas deux quand même. Même dans les moments difficiles, j'arrive à plaisanter avec Dieu. Et là, vous venez demander ceux qui m'ont accompagné. On m'a sorti de l'eau, on m'a posé sur la rive. Une main est rentrée dans l'eau et m'a posé. Un ange est arrivé et m'a sorti. Les autres m'ont regardé, comment t'as fait pour sortir? Mes amis... Nous avons... C'est qui le haut, là? Nous avons un Dieu de miracles. Ne le chantons pas pour parce qu'il faut chanter. Ne dansons pas parce qu'il faut danser. Tout à l'heure, je disais à une des filles... Mais il manque des spots de couleur ici. J'étais de l'autre côté, j'arrive, ça dansait. Je dis, mais on aurait dû allumer les lumières. On faisait boîte de nuit en jour, plein jour. Parce que même si nous chantons, même si nous dansons, on doit savoir pour qui nous chantons. Amen. On doit savoir pour qui nous dansons. Hein? Ah, mais je sais, les Africains aiment bien bouger le popotin comme Beyoncé, mais quand même. Hein? Mais voilà. Pour qui nous dansons? Pour qui nous chantons? Pour qui nous louons? Et tout à l'heure, elle disait là, ah, on est là pour louer Dieu. Et quand on sait le chemin qu'on a pris, tracé par Christ pour nos vies, eh bien, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons pour Christ. Tout. Même quand j'ai acheté ma première guitare, j'ai dit à Dieu de choisir ma guitare. Je me suis retourné, quand je suis allé avec Joël, quand il m'a acheté ma guitare. Il lui avait les sous, hein, donc je n'avais pas les sous. Je me retourne, je veux celle-là. Et le pasteur dit, c'est juste l'argent qu'il me faut. Vous savez, même pour nos achats, Dieu doit être notre guide. Alors, je ne veux pas parler de la dîme et des offrandes aujourd'hui. Hein, votre pasteur sait très bien le faire dans vos églises. Hein. Il faut donner sa dîme, il faut donner ses offrandes. Hein. Bon, je passe la page, ça c'est autre chose. Ah ben je peux parler de ça aussi déjà. Oui, je commence à travailler, ça arrive, il faut bien que je travaille de temps en temps. Étant donné que mon père n'était plus là, j'étais responsable de ma famille. Donc j'étais émancipé très jeune, je n'ai pas fait mon service militaire. Oh, parce qu'il fallait m'occuper de ma famille, je vais travailler pour nourrir ma famille. Ma mère et 4 enfants et moi. Mon père n'étant plus là, n'a jamais versé de pension alimentaire. Donc voilà, on a habité cette maison... On n'avait rien à manger. Quelquefois, on allait à l'école sans manger. On n'avait même pas 5 francs pour la semaine. Et quand on a tout mis entre les mains de Dieu, écoutez, ma mère, si elle est là, elle peut vous raconter, mais mon fils, il peut le dire, sa grand-mère raconte, tous les jours, il y avait un panier devant la maison, fruits, légumes, salades, riz, pommes de terre, tous les jours. On ne sait pas qui les a apportés. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui. Encore un ange. Tous les jours. Vous ne manquerez de rien, dit la parole de Dieu.
Amen.
Et ça, c'est ça. Donc, je reviens avec mon argent. Je n'ai pas oublié celle-là. J'ai travaillé et le pasteur, à l'époque, me dit, tu travailles, il te faut donner ta... Non, je n'entends pas bien. Encore une fois? Bon, les responsables, vous avez vu qui a dit. Pasteur, tu as vu qui a dit. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de dimanche, ce n'est pas ma faute. Hein. Donc, mon pasteur me dit, il faut apprendre à donner sa dîme si tu veux être béni, etc. Et puis, c'est des promesses qu'il y a pour toi, ta génération. Je travaille, on ne gagne pas beaucoup, hein, c'est des années des dinosaures encore. Et je donne ma première dîme. Je donne ma deuxième dîme, mon deuxième, mon troisième mois, et mon contrat qui s'arrête. Mon contrat s'arrête et je dis, comment je vais faire? Mais pendant ce temps, il y avait toujours le panier garni devant la maison. Hein. Et comme à l'époque, on n'avait jamais appris à manger du porc, parce que dans notre religion, à l'époque, on mangeait pas de porc et pas de bœuf. Et il n'y avait pas de porc, il n'y avait pas de bœuf dedans. Mais maintenant, je mange du porc. Oh. C'est tellement le bon cochon. Hein. Ah, le bon cochon grillé, là. Et donc, je dis, Seigneur, je n'ai pas de travail, je fais comment? Et mon pasteur qui vient me voir, vous savez, un pasteur, il est bien quelquefois, mais quelquefois, on aime bien qu'il nous oublie de temps en temps. Mais voilà, mais quand Dieu a préparé ta destinée, il met dans ta vie des hommes pour te montrer ta destinée. N'est-ce pas, papa? Il met des hommes et des femmes sur ta route pour montrer ta destinée. Alors mon pasteur vient me voir et dit, il faut passer le permis. Parce qu'on avait deux Volkswagen 9 places, la mode hippie, à l'église, et puis il fallait conduire les gens, ramener les gens. Comme si je n'avais pas assez avec mon problème. Il dit, passe ton permis pour ramener les gens chez eux, pour aller chercher, pour aller à l'église, etc. Ok, mais j'ai dit, avec quel sou je passe mon permis? Je donnais ma dîme, je n'ai plus rien, et j'ai une famille à nourrir. Tu as été fidèle? Dieu va être fidèle. Le mois d'après, écoutez, le mois d'après, une église qui venait souvent d'Inquerque, de Orchy, de Saint-Lenoble, je dirais même. Vous connaissez, non, Saint-Lenoble, avec le pasteur Michel Werner à l'époque. Bref, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune. Donc, il y a une famille qui nous rend visite à l'église. Et une des sœurs arrive vers moi et me donne une enveloppe. Imaginez mon âge, vous le savez maintenant. Mon permis, je l'ai eu à... Il y a longtemps, très longtemps, imaginez, ça coûtait très cher. Dans l'enveloppe, il y avait l'argent pour mon permis. Il y avait l'argent pour mon permis qui représentait mes dîmes données, multipliées par 10. Alors je dis, il y en a trop. C'est pas possible, Dieu. Je demande juste de l'argent pour mon permis. Je ne vais pas demander 300 francs en plus. Je passe mon permis, je rate mon code. Il faut payer 50 francs en timbre fiscal. Ok, j'ai mon code. Je passe ma conduite, je rate ma conduite, 50 francs. Je repasse ma conduite, je rate ma conduite. En fait, l'argent que Dieu avait mis dans l'enveloppe était juste pour payer mon permis. Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Quand on commence à lui faire confiance, quand on laisse Dieu diriger nos vies, quand on laisse Dieu prendre le dessus sur notre vie, quand on laisse Dieu se permettre de prendre notre destinée en main, je ne m'inquiète de rien. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je ne m'inquiète plus. Maintenant que je n'ai plus de sous, je vais voir qui? Non, ma femme, c'est elle qui a le porte-monnaie. Non. Dieu est un Dieu de bénédiction. J'avais envie de vous partager, juste avant, il reste un quart d'heure avant la pause, vous partager ceci parce que c'est tellement important de reconnaître que tout ce que Dieu fait est bon. Même dans les moments difficiles, même dans les moments où c'était très douloureux, la mort de mon frère, et je ne parle pas d'autres décès qu'il y a eu, Noah peut rappeler l'année dernière encore, j'ai un beau-frère de 45 ans qui meurt d'une crise cardiaque. Il y a plein de choses qui passent sous nos vies tous les jours. Mais quand Dieu est au contrôle et qu'il a tracé pour nous une destinée, saisis ta destinée. Ne laisse pas passer le chemin que Dieu a tracé pour toi. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, j'ai mis devant toi deux routes, deux chemins, deux voies. Il y a un chemin qui mène à la bénédiction et l'autre chemin qui mène à la malédiction. Aujourd'hui, c'est à toi de voir ce que tu veux suivre. Peut-être, j'en suis sûr que parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui attendent pour voir si demain il y a encore temps. Je disais ce matin, la foi que tu as, c'est pas les autres qui doivent conduire ta foi. Juju voulait me rendre mon 10 euros tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, j'en ai besoin, mais... Non, c'est une blague. La foi, c'est personnel. Ne regarde pas aux autres pour avancer dans ta vie chrétienne. Vous savez, on est très vite déçus. Vous savez, en tant que pasteur, je peux décevoir tout le monde. À première personne, je déçois ma famille, peut-être dans mes attitudes, dans mes paroles. On peut décevoir son meilleur copain, sa meilleure copine. On peut être déçu, mais Dieu ne déçoit jamais. Ses promesses sont vraies, véritables. Et ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie, vous savez, il paraît que dans ma famille, on vit de côté, mon côté, on vit très vieux. Je ne dis pas que je vais vivre comme Noé. Mais voilà, je sais, je peux aller jusqu'à ma famille, on vit jusqu'à 102, 103 ans. Donc si je suis encore là, vous me verrez. Mais je sais que si je laisse Dieu conduire ma vie, c'est lui qui mènera toutes choses. Notre vie chrétienne ressemble, lorsque Christ était dans la barque, et lorsque la tempête a soufflé, le vent soufflait fort, la mer se déchaîne. Et là, Christ souffle. Il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de vent. Tu veux ça pour ta vie? Sois dans la barque de Jésus. Un jour, les disciples sont allés pêcher. Ils n'ont rien ramassé. Jésus va à leur rencontre. Et quand vous remarquez dans la Bible, c'est souvent Jésus qui va à leur rencontre. Jésus va à leur rencontre et dit, vous n'avez rien pêché? Non. Allez-y, retournez. Et je vous vois vos têtes, les jeunes. Tiens, t'as un jean déchiré toi aussi. J'ai pas vu. Jésus... Nous, les jeunes, on dit, écoute, Seigneur, on est fatigués. Hein. Déjà, les jeunes, ça, on a dit, allez, excusez, on se lève à midi. Hein. Les jeunes se lèvent à midi. Et qu'est-ce qu'on se lève à midi? Pas faim. Et le soir, on mange quand? Et en fait, on n'est jamais content. Et là, Jésus va dire à ces hommes mûrs de retourner. Et ce qui me frappe dans ce texte, quand... Ils se sont retournés pour repêcher à nouveau. Ok, sur la parole de Jésus, ils vont jeter le filet. Mais Jésus est précis. À droite. Il n'a pas dit jette devant, derrière, en l'air. Jette à droite. Ce que j'ai envie de vous dire par là, quand Jésus nous parle pour notre avenir, pour notre futur, notre destinée, il est juste. Il a des mots justes pour nous. Et quand il nous parle... Il veut nous montrer la direction. Es-tu prêt à suivre cette direction? Es-tu prêt à laisser Jésus conduire ta barque? Et ce Christ que nous servons, que nous voulons servir, que nous désirons servir, j'ai dit tout à l'heure que savoir qui suis-je? Quel est l'objectif de notre vie? J'en ai parlé. Le potentiel, vous en avez tous, les potentiels. Vous êtes jeunes, et quand je vous ai vu faire la gymnastique tout à l'heure avec Alex, hein, j'espère qu'on l'a filmé, hein, parce que ça, il faut leur remonter ce qu'ils savent faire. Parce que le jour où ils viennent à la réunion de prière, ou à l'étude biblique, ou à un groupe de jeunes, et je suis fatigué, on va se faire du sport 3 minutes, tu vas voir. C'est bien d'avoir les vidéos aujourd'hui. On enregistre tout maintenant. On est fatigué. Oh, mais laisse Jésus te donner le potentiel que tu as besoin. On n'est pas fatigué pour aller faire la fête avec ses copains. On n'est pas fatigué de sortir le soir tard. Et puis, lorsqu'on veut aller au culte, on a du mal d'aller au culte. Et puis, on arrive avec cette tête enfarinée. Je loue Dieu. Non, Dieu a mis en vous du potentiel. Et vous savez ce qui m'a manqué cet après-midi? Quand je suis venu la dernière fois, il y avait des jeunes filles qui dansaient là-bas. Je ne les ai pas vues danser. C'est vrai. Et ça m'a manqué. C'est vrai, c'est pas une blague, les filles. Il y a du potentiel dans cette église. Il y a du potentiel dans nos églises. Dieu veut se servir de ce potentiel pour toucher le monde. Si nous n'allons pas vers le monde, qui va vers le monde? Si nous ne sommes pas utilisés par Dieu, qui va t'utiliser? Oui, le diable se sert des hommes et des femmes pour toucher le monde et ramener à lui tous ceux qui sont dehors. Vous savez, hier on frappait à ma porte. Bonbon! Hein? Aujourd'hui, le diable donne des bonbons. Je me rappelle une des fois, lorsqu'ils sont venus frapper à ma porte, j'ouvre grande ma porte, je dis, ici, il n'y a pas de bonbons. Si nous ne nous laissons pas utiliser par Dieu, le diable va utiliser des hommes et des femmes pour faire sortir de nos églises tous ceux qui sont dedans. Et c'est pour ça qu'on doit être ancré en Christ, ancré dans la parole de Dieu, ancré dans cette vie de prière, ancré dans, pour pouvoir avancer. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, j'ai raté plein de versets, mais ce n'est pas grave. Proverbes chapitre 19, verset 21, « Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme. » Comment? Waouh! Il y a les docteurs de la loi ici. Hein. Waouh! Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen! Quels sont tes desseins? Quels sont tes rêves? Comment prépares-tu tes rêves? Comment tu prépares-tu ton avenir? Sur qui t'as placé ton avenir? Qui dirige ton avenir? Si ce n'est pas Dieu, écoutez-moi bien, c'est le diable. Si ce n'est pas Dieu qui dirige ta vie, c'est le diable. Il n'y a pas noir ou blanc. Hein, il n'y a pas. On ne joue pas cache-cache avec Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui dirige nos vies, c'est le diable qui dirige nos vies. Et aujourd'hui, Dieu vous a fait venir ici. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a jamais de hasard. Vous savez, il y a une phrase, tout à l'heure, quelqu'un a sorti cette phrase. On vient de passer par plusieurs périples. La personne me pardonne, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas dire son nom tout de suite, donne son nom, toi. Mais non, c'est pas toi. Et souvent dit, c'est la série. La loi des séries. Non! Je refuse la loi des séries. Si je dis la loi des séries, ça veut dire que c'est le diable qui laisse, qui prend tout. La loi de série n'existe pas chez un enfant de Dieu. Amen. J'entends pas. Amen. La loi des séries n'existe pas. J'ai eu des problèmes de cœur, j'ai eu des décès dans ma famille. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des trucs pas possibles. Non, c'est pas la loi des séries. C'est l'épreuve par laquelle je passe pour que Dieu me forme, pour que je sois son image. Alors, peu disent amen qu'on doit passer par les épreuves. Et j'accepte que je passe par ces épreuves. Jésus a passé par des fronts plus grands que ça. Il a donné sa vie, il est mort pour moi. Alors moi, mon petit épreuve, ce n'est pas grand-chose. Parce que lorsque je passe dans cette épreuve, on a parlé de la fournaise, n'est-ce pas? Dans le fournaise avec les gens qui étaient dedans, en train, dont les amis, ils n'ont pas été brûlés. Pourtant, ils sont allés dans la fournaise. Ils n'ont pas été brûlés, ils sont passés par l'épreuve. Il suffit de dire, non, Jésus, moi je t'accepte pas, je n'ai pas besoin. Il y a deux jours, il y a une femme qui a été libérée parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi chrétienne. Elle était condamnée pour être lapidée. Il y a deux jours, elle vient d'être libérée. Elle vient libérée parce qu'elle a dit, je tiendrai bon parce qu'il n'y a que mon Sauveur qui me soutient. Si je passe par les épreuves, je sais que Dieu est mon soutien. Alors si je vous parle de mon témoignage, si je vous ai parlé un peu rapidement cet après-midi dans cette session qui se termine en 3 minutes, eh bien pour vous dire que dans tous mes moments difficiles, Dieu a toujours été là. Amen. Toujours fidèle. Toujours, toujours, toujours fidèle. Un homme de succès n'est pas un homme riche. Un homme de succès, c'est un homme qui est rempli de Dieu. Amen.
Amen.
Une femme de succès aussi. Un homme de succès est rempli de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Avant, lorsqu'on faisait des réunions, on n'avait même pas besoin de parler pendant 3 quarts d'heure. On rentrait dans la salle, la présence était là et ça tombait. Antoine, c'est vrai. Moi, je me rappelle le temps de ma conversion, ce temps-là. On rentrait, l'Esprit de Dieu arrivait, il y avait un désir profond dans les cœurs. Et aujourd'hui, nous vivons un peu à la mode, une église à la carte. J'y vais à l'église, tiens, aujourd'hui, on verra. On va à l'église à la carte. Mes frères, mes sœurs, je n'aime pas ce mot-là. Les copains, les copines, comme vous voulez, mais je n'aime pas frères et sœurs. Parce que pour moi, les vraies sœurs, ce sont ceux qui sont prêts à se donner sa vie pour moi. T'es prêt à donner ta vie pour moi? Donc t'es ma sœur. Quel que soit l'endroit où nous passons, quels que soient les moments difficiles, les réunions se passaient comme ça. Tu rentrais transformé. Tu rentrais transformé. Vous savez, avant les églises étaient remplies. C'était des petites églises du coin de maison, là. Hein, on poussait les fauteuils, les armoires, et puis on fondait des églises dans toutes les rues. Aujourd'hui, nos églises se vident. Parce qu'on n'a plus en nous ce désir de voir un Dieu véritable agir. Parce que notre destinée n'est plus la même destinée que Dieu place dans notre vie. On pense d'abord à notre propre destinée avant de voir la destinée que Dieu a mis dans notre vie. Mais ça va changer, n'est-ce pas? Mais oui, hein? C'est clair, bien sûr. Alléluia. Alors, trouve ta place dans l'église. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te convaincre de péché. Laisse Dieu te conduire ta vie. Laisse Dieu saisir ta destinée. Laisse Dieu te placer là où tu es. Et tu auras une grande place dans ce monde. Peut-être parmi nous, il y a peut-être futur président de la République. Peut-être parmi nous, il y a peut-être le futur préfet de Lille. Vous savez, Billy Graham, il est mort, hein, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. René Bonquet, il est devenu vieux. Mais les hommes capables de faire ce qu'ils ont fait et faire encore mieux, ils sont là. Ils sont là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous pouvez faire mieux que moi. Vous pouvez faire mieux que nous. Et souvent Antoine disait, mais il est là maintenant, tant pis pour lui. Il disait, il fera mieux que moi celui-là. Vous ferez mieux que nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. C'est marrant, je gardais plus par là et moins par là. Vous êtes beau aussi, vous savez. Hein? Ça va? Je ne vous ai pas trop manqué? Si, un peu. Nous avons tout pour réussir. Alors, on va clôturer ici. Et on va attaquer la dernière partie. Alors là, il n'y aura plus de chaise, hein, je vous le dis tout de suite. Je dis tout simplement, ça va déborder. Ça va péter. Ça va changer. On va être libéré. Ton succès de demain commence maintenant. Alors, si c'était moi, il n'y aurait pas de gâteau, hein. Il n'y aurait pas de gâteau, mais il y en a qui ont mangé à peine il y a une heure et demie, ils ont déjà faim, hein.
Moi, j'ai soif de
Jésus. Ah ouais, Vous savez pourquoi? Parce que jeûne. Pardon. Ah, moi, je dis toujours la vérité, hein. Après, c'est votre problème. Moi, j'ai envie qu'on change la face du monde. T'as faim? J'ai envie qu'on change la face du monde. On change la face du monde? T'es d'accord? Ok. Amen! Soyez bénis à tout à l'heure.